Cap et Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap et Cap avec Patrick Avakian. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans Cap Cap celui qui va devenir, et qui est déjà un de mes camarades de radio. Vous l'entendrez très bientôt et je vous donnerai la date de sa première émission tout à l'heure. Vous l'entendrez dans son émission H1000. Il nous expliquera quelle est sa ligne éditoriale, son propos. Vous verrez, c'est extrêmement original. Ça va vous surprendre, ça va vous intriguer. Et je l'espère, j'en suis sûr, ça va vous séduire. Bonsoir Patrick Avakian.
Bonsoir Jacques et bonsoir Esprit Occitanie.
Alors bienvenue sur le plateau, mais vous êtes désormais ici chez vous. Vous avez, on va voir finalement deux parties dans cette émission, votre passé, bon vous êtes un homme jeune, mais votre passé récent et ensuite le tournant que vous avez donné à votre vie, à votre carrière professionnelle, mais je crois que les deux vies et carrière professionnelle me paraissent étroitement liées.
Tout à fait, tout à fait.
Alors si j'ai bien lu ce que vous m'avez envoyé pour que je puisse préparer cette émission, vous avez été un éducateur et en plus un éducateur de jeunes enfants. Alors comment on devient éducateur? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un éducateur?
En fait, tout d'abord, quand j'étais très très jeune, j'étais plutôt attiré par les colonies de vacances en qualité de moniteur de colo. Et c'est par ce biais que j'ai rencontré la montagne. En fait, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc voilà, moniteur de colo en montagne, dans la région de Cotteret, au lieu des Hautes-Pyrénées. Donc passionné par la montagne et passionné, on va dire, par la relation sociale. Et ensuite, je vais un peu par hasard sur Toulouse, accompagner un ami pour être et devenir éducateur de jeunes enfants. À cette époque, je ne savais pas trop quoi faire. Et donc, j'ai fait éduque de jeunes enfants.
Alors, quand on dit éducateur, vous éduquez, ça consiste en quoi, éduquer?
J'étais, et encore rares sont les hommes qui s'occupent des bébés, des tout-petits, âgés de 3 mois à 24 mois maximum, et maintenant c'est 18 mois, parce que de plus en plus, ils vont à l'école très jeunes. Et donc voilà, c'est l'accueil parental, enfin plutôt des enfants, que les parents qui doivent travailler. Nous confie lourde charge leurs jeunes.
C'est de la garderie
C'est pas exactement de la garderie, c'est-à-dire que nous, on est sur le versant de l'éveil. Voilà. Mais tout ceci, aujourd'hui, prend un sens, puisqu'aujourd'hui, j'éveille l'auditeur à la nature. Avant, j'essayais d'éveiller. Les enfants sont très éveillés, il n'y a pas de problème. Mais notre travail était d'éveiller les enfants à la socialisation, à l'apprentissage des premiers pas, à ce qu'on appelle l'art enfantin, que ce soit par le biais de la peinture, de la sculpture. Enfin, quand je dis sculpture, pâte à modeler, etc.
Donc
etc.
Vous leur ouvriez des pistes, vous mettiez sur des trajectoires qu'ils aimaient, qu'ils n'aimaient pas, mais enfin, ils pouvaient d'ores et déjà... Peut-être commencer à s'exprimer un peu, à laisser parler leur
tout à fait.
Nature.
Par l'espace ludique. Et puis ensuite, j'ai essayé d'évoluer, pardon. Ouais.
Mais jeunes enfants, c'était des très très jeunes enfants. Après, vous êtes devenu, alors je vous coupe, pardon, mais vous alliez y venir tout seul. Je vais finalement vous laisser, vous ferez l'émission tout seul. Je plaisante. Vous étiez éducateur spécialisé. Alors, qu'est-ce que c'était cette spécialisation? Parce que déjà, pour s'occuper de jeunes enfants, j'imagine que c'est déjà une spécialisation.
Spécialisation.
N'importe qui ne peut pas le faire.
Éduque de jeunes enfants, c'est Bac plus 2. Éduque spé, c'est Bac plus 3. Et en fait, comme j'avais une équivalence, j'ai fait 2 ans d'éducateur spécialisé, comme j'étais éducateur de jeunes enfants. Et là, en fait, l'éducateur spécialisé, il peut toucher au social dans le sens large. C'est-à-dire, on va dire, l'extrême, c'est ce qu'on appelle, et j'aime pas ce terme, les cas sociaux. Voilà. Problématiques de rue, hein, les banlieues, etc. etc. Ça interpelle aujourd'hui en plein débat, des élections, etc. et le versant de l'handicap, handicap mental multiforme. Et donc, moi, je suis tombé dans un foyer d'accueil médicalisé qui accueille donc des personnes handicapées mentales ou des personnes qui ont eu des accidents à la naissance. Le cerveau mal oxygéné, etc., etc., qui crée donc des troubles cognitifs, de la personnalité, etc., etc. Vous mélangez tout ça, vous obtenez un foyer et vous travaillez pendant 19 ans auprès de l'handicap. Mais la montagne était toujours en filigrane de ma profession, c'est-à-dire moi je faisais beaucoup de montagne et je faisais aussi de la radio.
Ah ben voilà, c'est pour ça que vous êtes aussi à l'aise aujourd'hui devant ce micro, ouais, on le savait ouais. déjà. Ces enfants, vous dépendiez de qui ? Du ministère de l'Éducation nationale, de la santé ?
Public. Voilà, ARS pour ne pas les nommer.
L'ARS.
Ouais, 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 ouais. Donc une partie du financement, c'est la région, je le crois. Une partie du financement, c'est aussi l'allocation adulte handicapé. Une partie paye aussi, c'est-à-dire que les résidents payent aussi le service qu'on leur apporte. Voilà.
C'est un métier compliqué, exigeant, c'est un métier qui pompe beaucoup d'énergie, j'imagine, non ?
C'est un métier qui pompe beaucoup d'énergie, mais le plus difficile à gérer. C'est pour cela que je l'ai quitté, c'est-à-dire que le travail est en train de changer. Nous avons des consignes qui viennent d'en haut. Voilà, alors ça peut être... Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'un éducateur spécialisé est plus derrière un ordinateur qu'en contact avec les publics en difficulté.
Alors, qui c'est qui s'occupe des publics en difficulté ? Si ceux qui sont censés s'en occuper, formés pour ça.
Les AMEP, ça coûte moins cher à la direction. Et puis,
AMEP,
et puis,
voilà, traduction.
Et aide médico-psychopédagogique. Voilà. Si je fais le parallèle, c'est infirmière, aide-soignant, éducateur spécialisé, AMEP. L'éducateur spécialisé serait un peu garant de la ligne éditoriale de l'établissement dans lequel il est embauché. Voilà. Et garant des soi-disant projets, mais maintenant c'est très très difficile avec la législation, etc., etc.
Quel rapport vous avez eu avec ces enfants, donc, dont certains, alors les plus jeunes, on n'en parle pas, mais...
Bah, les enfants, les adultes surtout, 19 ans.
19 ah oui, ans ils de boulot. Avaient, oui, c'était quand même...
Ils avaient le plus jeune avait 19 ans, le plus ancien 54 ans.
Ah mais là on ne peut plus parler d'enfants. Là.
Ah ben non, c'est des adultes handicapés, on mélange tout, parce qu'il n'y a pas assez de place.
Ça veut dire qu'un homme de 50 ans va se retrouver avec des ados et ils ont en commun la seule chose, c'est-à-dire d'être handicapé.
Oui, sauf qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est schizophrène et quelqu'un qui est trisomique. Donc vous mélangez une personne trisomique avec un schizophrène.
Et alors ça donne quoi ?
Je sais pas. Allô, j'allais dire de manière humoristique, allô, Carole Delga, sauvez-nous du manque de place dans les institutions. Mais a priori, ben, il n'y a pas de place, il n'y a pas d'argent, je ne sais pas, j'ai quitté le...
Il n'y a pas d'argent pour ça. Hein.
Peut-être pour ça. Hein ? Peut-être pour ça. Voilà.
Et le rapport avec ces gens, quel était-il ? Vous étiez perçu comment par eux ? C'était quelque... Vous étiez un grand frère ?
Ouais.
Vous étiez...
À la fois on génère beaucoup de choses, des représentations symboliques du père, du grand frère. En même temps, ces représentations symboliques peuvent se retourner contre vous, dans le sens où on peut être identifié comme le mauvais frère, le mauvais père, et faire face à de la violence.
Parce que là, il fallait parfois, j'imagine, dire non, voire ouais. plus.
Ah ben, tout à fait. Mais le problème, c'est qu'on est démuni face à l'expression de cette violence de la part de pathologies qui sont de plus en plus lourdes. Manque de psy, manque d'infirmières, je ne vais pas faire le truc, manque de psychologues, voilà. Donc on est démuni. Si vous voulez, la situation dans le milieu spécialisé tel que je l'ai connu, peut-être... comparable à la situation des hôpitaux publics qui sont en surcharge. Nous aussi, on est en surcharge de travail, on est en surcharge d'accueil de pathologies de plus en plus lourdes dont on ne sait comment parfois
à part que peut-être on en parle moins parce que ils sont vraiment un peu quand même aux marges de la société. Quand il manque de lits dans un hôpital, ça se remarque surtout actuellement. Mais là, c'est des gens qui n'intéressent plus personne, un peu comme les personnes âgées.
Moi, je pense que le handicap mental se remarque, mais qu'il y a une forme d'amalgame, notamment dans le traitement des médias, lorsque souvent, y a de la violence qui s'exprime à travers tout ce qu'on a connu. Moi, j'aurais bien aimé savoir si ces personnes-là qui tuent des gens à coups de couteau, etc., attention à ce que je vais dire, c'est pas forcément politiquement correct, mais bon, est-ce qu'ils ont des troubles psychiatriques avant d'être qualifiés terroristes? Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je me suis occupé de gens, de personnes, que si elles étaient dans la rue et qu'on leur monte le bourrichon, elles passent à l'acte.
Oui, vous voulez dire que c'est des publics particulièrement fragiles intellectuellement.
Intellectuellement et violents.
Comment ces jeunes, alors ils étaient jeunes, après ils sont devenus vieux, vous l'avez dit, ça veut dire certains étaient condamnés, puisque vous en aviez qui avaient 50 ans, étaient condamnés, arrêtés, jusqu'à là, avant de basculer éventuellement dans la maison de retraite, rester dans un institut spécialisé.
C'est le parcours, c'est le parcours.
Ça veut dire que d'entrée, ils sont un peu dans le couloir, on ne va pas dire le couloir de la mort, mais enfin pas loin, ils sont en marge et rejetés. Hein.
Tout à fait. Alors le problème, c'est être à marge et rejeté. Il n'y a pas de structure d'accueil, si vous voulez. C'est très difficile à expliquer à la radio. Bon, on va dire que les handicapés légers, ils vont dans ce qu'on appelait autrefois les CAT, qui sont maintenant les ESAT, c'est-à-dire ce sont des centres d'aide par le travail. Mais si vous n'êtes pas assez performant, vous allez dans un autre type de foyer. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de structure intermédiaire entre quelqu'un qui va avoir un handicap léger et une structure qui va accueillir des personnes qui ont des handicaps lourds.
Mais alors, dans toute cette population qui arrivait, on a compris qu'il y avait des degrés très divers et variés et qu'on mélangeait un peu la carpe et le lapin. Mais est-ce qu'il y en a certains, et est-ce que c'était un peu la vocation de ces établissements, que de les remettre à niveau, entre guillemets, pour vivre une vie normale dans la société?
Franchement, l'institution est très déstructurante. C'est-à-dire que parfois, les gens, quand ils avaient passé 5 ou 6 ans au foyer, étaient beaucoup moins autonomes que lors de leur arrivée.
C'est-à-dire qu'ils faisaient l'inverse de ce qu'il aurait fallu faire.
Oui, parce que l'institution est infantilisante. Et là, si on se raccroche à la montagne, c'est dangereux, il ne faut pas y aller, là, surtout maintenant, ça y est, il neige, machin. On est quand même dans une société très infantilisante. On vous parle tout le temps de pédagogie. C'est pour ça que lorsque vous vous baladez en montagne, maintenant, il faut un accompagnateur montagne. Moi, j'ai arrêté de faire de l'accompagnement montagne parce que je ne suis pas un pigiste pour, des sociétés qui vendent des voyages d'aventure. Et je ne suis pas non plus un commercial de la montagne. Voilà. Quand j'amène des gens en montagne, qu'elles soient handicapées ou non, c'est pour découvrir un milieu et se connaître soi.
Mais justement, ces sorties en montagne, à la mer, ou par exemple travailler avec des animaux comme les chevaux, je crois qu'on l'a pas mal fait pour des enfants en difficulté, ça leur permet de mieux se rééquilibrer ou pas?
Je pense que ça...
Parce que là, on sort de la maison, enfermé avec toutes ces contraintes.
Là, c'est ce qu'on appelle un projet pédagogique. Mais pour qu'un projet pédagogique soit abouti, il faut que l'institution s'en empare. Si vous faites de la montagne de manière sporadique, une fois par semaine, avec des personnes handicapées ou non, le projet n'aura pas la portée qu'on espère lui donner. La montagne, ça doit prendre du sens. C'est un peu, si vous voulez, comme... n'y voyez rien de péjoratif dans le truc touriste, mais bon, voilà, la famille qui va passer un petit séjour de 3 jours en montagne, et la personne qui va, y passer tout le long de l'année des journées. C'est très différent, l'approche. Soit vous avez une approche consumériste de la montagne, y compris de la radio, si on fait le parallèle avec la radio, soit vous avez un rapport différent qui donne du sens, je dirais presque philosophique. Moi, mon rapport avec la montagne, il est à la fois contemplatif, émerveillé, philosophique, mystique, pas religieux par contre.
Oh. participants que vous avez pu en amener des enfants handicapés.
Tout à fait, tout
et
à
alors
fait.
Comment ils ont réagi face à la montagne?
La fierté d'accomplir quelque chose.
D'être comme les autres déjà, certainement.
Pas forcément d'être comme les autres, mais d'être dans une forme de transgression. Si vous voulez, psychanalytiquement, la montagne, c'est nos limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, il n'y a pas un gendarme, il n'y a pas un passage clouté pour vous dire « faut pas faire ci, faut pas faire ça ». C'est à vous à trouver vos propres limites, c'est à vous de vous confronter à la nature.
Enfin, les limites, on devait vite les trouver, parce que j'imagine que si vous en partiez avec 10, il fallait ramener les 10. Donc,
oui. Hein, non, mais quand je dis les limites, c'est-à-dire que, par exemple, et ça peut arriver... Détachons-nous de l'idée de l'handicap. Moi, j'ai amené des personnes qui ne soupçonnaient pas qu'ils pouvaient endurer 6 heures, 7 heures de marche, ou qu'ils pouvaient endurer une nuit dans un refuge, ou sous une tente, ou par des températures négatives.
Ça veut dire qu'on surprotège les gens, ou plutôt on ne les surprotège pas, on les met dans un coin parce que c'est trop compliqué et trop cher que de leur faire vivre ce genre d'expérience.
Je pense que soit on les met dans un coin... Soit on les fait flipper en disant « partez avec un professionnel de la montagne ». Mais alors là, je vais me mettre...
Bien, ça, on fait flipper tout le monde aujourd'hui, ça ne touche pas que les jeunes.
Bien sûr.
Ce qu'on appelle le principe de précaution, même dans la Constitution aujourd'hui, à force de prendre des précautions, on ne fait plus rien.
Comment contrôler une société si ce n'est pas faire peur aux citoyens?
Ben oui, alors la peur est peut-être le début de la sagesse, non?
Je sais pas, certainement qu'en montagne, il faut avoir peur, mais moi, je préfère avoir peur en montagne qu'avoir peur d'avoir loupé le dernier rappel de cotisation de l'IRCEC ou je ne sais quel organisme administratif qui sont des contraintes qui nuisent finalement à votre... personnalité.
À votre sérénité.
À votre sérénité.
Je crois que je vois ce que vous voulez dire, mais je le vois même très bien. Et nos auditeurs certainement aussi. Alors vous vous êtes dit, face à cette situation, bon, il faut faire autre chose, on va prendre un autre virage. C'est pas évident parce que vous êtes sorti de votre zone de confort, qui est peut-être pas si confortable que ça, mais qui au moins sur le plan purement matériel, vous donnait à manger... Au moins, à minima.
Oui, Jacques, mais ça, c'est une très longue histoire. C'est-à-dire, si je faisais le résumé de mes 35 ou 36 années de radio associative, parce qu'on m'a parlé de radio tout de même, ben, j'ai commencé, comme tout le monde, à faire des émissions pose-disque sur une radio, je peux la nommer.
Oh, bien évidemment.
Qui s'appelle Radio Campus Toulouse. Et pour
oui,
lequel
une excellente radio, excellent
ouais,
confrère.
Et je suis toujours affilié à cette radio, d'ailleurs. Et puis, chemin faisant, on a commencé un peu à s'interroger. C'est-à-dire, au début, c'est un peu pour l'ego, quoi. On fait de la radio, on se dit « ouais, je vais parler au micro et tout. Je vais passer ma musique à moi, ce que j'aime ». Et puis ensuite, on a été très influencé par l'esprit, on va dire, des inconnus, des nuls. On a commencé à faire des fausses pubs à la radio. Fausses pubs qui, aujourd'hui, seraient totalement interdites.
Mais il y avait Jean-Yann hein, qui avait un peu ouvert la voie. Puis dans un film célèbre qu'on a vu récemment et qui parlait de radio, qui
oui.
était un film absolument fabuleux.
Oui, tout à fait. On n'a rien inventé. Hein. Nous n'avons rien inventé. Mais disons que l'exercice de réaliser des fausses pubs, déjà, ça nous met dans une disposition différente, puisqu'en fait, on commence à faire du montage, à titiller le montage. Alors, à l'époque, le montage se faisait avec les bandes magnétiques, enfin bon, bref.
Aujourd'hui, on est passé sur d'autres techniques, pas forcément plus simples d'ailleurs, mais bon.
À tous les cas, ça m'a appris une chose, ça m'a appris à contourner un peu les difficultés, puisque je n'étais pas informatisé, etc., etc. Mais là, je saute une étape. Pendant des années, j'ai fait des fausses pubs, etc. Et un jour, j'ai eu une idée, comme je suis passionné de montagne, plutôt que de ramener des photographies, des images, je me suis dit, ben, ramène du son. Et c'est par ce biais qu'est née l'idée, le programme H1000.
Alors, on va y venir là, Patrick Avakian. On va faire d'abord une première pause musicale. Alors, bon, c'est vous qui l'avez choisi, vous m'avez parlé de Burial. Expliquez-nous un peu qui est... Alors, ce Burial.
Burial, c'est un DJ qui compose de la musique électronique à travers plusieurs éléments obsolètes qu'il trouve et qu'il récupère dans plusieurs, dans plusieurs boucles qu'il crée lui-même. Mais lui aussi crée de la musique. Pourquoi j'aime Burial ? Parce qu'en fait, chez Burial, vous avez toute la musique électronique réunie en 4 ou 5 minutes. C'est à la fois ambiante, à la fois ambiante, donc musique d'ambiance relaxante, à la fois des fois des tempos très, très soutenus, bon, pas sur ce morceau, et puis une forme d'écriture, une forme mélodique qui est aux antipodes de la musique électronique telle que, on va dire, on se l'imagine. Souvent, on met des images sur la musique électronique, Daft Punk, voilà. Groupe français connu mondialement, ou le boom boom de David Guetta, ou je sais pas. Alors que la musique électronique, c'est une musique sensorielle qui fait appel à d'autres zones de notre, de notre cerveau, de notre perception auditive. En voici un exemple avec Burial, Remix, Spill.
Eh bien, c'est parti.
When I was young, magic was everywhere. When I was young, is done. broken heart was just a song to be sung.
Voilà, nous avons entendu une musique que l'on n'a pas l'habitude d'entendre.
Tout à fait, mais c'est le but.
Oui, de faire découvrir.
Et la radio, c'est fait pour ça.
Ouais. On est bien d'accord. Alors, vous avez parlé, et vous nous avez devancé un peu, vous avez parlé de la montagne, vous avez parlé de votre émission H1000. Donc H1000, c'est l'émission que nous allons entendre, je vais vous le dire, vous entendrez la première le vendredi 3 décembre, donc c'est bientôt, très bientôt, à 19h, après rediffusion le samedi à 9h et le dimanche à 11h, mais vous aurez également le podcast accessible dès le vendredi. Alors H1000, vous nous expliquerez pourquoi le choix de ce nom, c'est un peu particulier, hein, H comme la lettre et puis 1000 comme le chiffre, qu'est-ce que c'est H1000? Ah, comment ça marche et qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? En fait, H1000, c'est une carte postale sonore qui est livrée aux oreilles des auditeurs. En fait, ce que je recherche, c'est de mettre en immersion l'auditeur dans la montagne à travers mes randonnées. C'est un peu comme si, Jacques, vous veniez avec moi en montagne.
Ah ben, ça risque d'arriver.
Voilà.
On va sortir du studio
et qu'on partage ensemble l'écoute. Parce que, justement, l'écoute est très importante. Et plutôt que d'arborer la montagne sous le signe du reportage, on va dire documentaire, du style « je vais aller interviewer le berger », je vais aller interviewer le chasseur, est-ce que vous êtes pour ou contre l'ours? Plutôt que de rentrer dans ces choses-là, plutôt que de dire, attention, la nature est en danger, telles espèces disparaissent, en montagne, le dérèglement climatique, on le sent. Moi, j'essaie de restituer l'univers, je dirais, encore une fois, merveilleux des sons que l'on entend en montagne, parce que la montagne est en perpétuelle métamorphose, quelle que soit la saison, quelle que soit, je dirais, la journée, la nuit, les amplitudes de température, etc. Donc c'est toujours en mutation. Et moi j'essaie de restituer, à travers mes randonnées, le climat sonore de la montagne sur un moment particulier.
Alors vous avez choisi la montagne, pourquoi? Parce que c'est là que les sons sont les plus remarquable, vous l'avez choisi par goût personnel, vous auriez pu aller en Bosse, vous auriez pu aller en bord d'océan de Méditerranée, ou alors non, c'est très spécifique.
Alors, exclusivement la montagne, parce que je suis donc passionné de montagne, et que la montagne, c'est ma vie, et j'ai la chance aujourd'hui de la partager via la radio avec les auditeurs, et vous qui me diffusez. Et puis, avec mon épouse, c'est très important aussi de partir accompagné, puisque pendant 30 ans, j'ai galéré en solitaire.
Il faut que l'épouse aime la montagne et accepte le jeu, qui n'est pas évident.
Pas évident, mais on ne va pas parler de notre vie intime, mais ça ne pose pas de problème aujourd'hui d'aller avec mon épouse à montagne.
Vous pensez que les gens savent encore écouter? Parce qu'on entend beaucoup, surtout quand on est dans une ville, on entend des bruits parasites en permanence, on n'en peut plus même. On se coupe un peu. Beaucoup de gens, quand on prend les transports en commun, ont des casques sur les oreilles, même d'ailleurs pas que dans les transports en commun, dans la rue, ce qui est très dangereux, ou ailleurs. les gens n'ont plus envie d'entendre les bruits qui sont autour d'eux, ou est-ce qu'ils préfèrent choisir les bruits ou les sons qu'ils vont entendre ?
Je pense qu'on vit une époque quand même assez particulière, c'est-à-dire que, en fait, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, l'émission ne cherche pas à être pour ou contre, c'est à l'auditeur à faire son avis. Moi, le but de l'émission, c'est de créer une émotion. C'est-à-dire, à un moment donné, si l'auditeur entend un bruit d'oiseau, mais aussi, parce que je réalise des émissions au bord de l'océan ou dans d'autres pays, on entendra des sons du Chili ou de la Slovaquie. Si donc le public est sensible aux sons de la nature, peut-être qu'il va se dire qu'il y a autre chose à écouter.
Il faut savoir écouter.
Il faut savoir écouter que ce qu'on nous propose via la télévision. Parce que j'ai l'impression qu'on vit dans un bruit de fond perpétuel sans prendre le temps de la lenteur.
On va, là c'est, on en est à la description du concept, on va essayer de l'illustrer, puisque vous avez amené quelques bandes que les auditeurs, bien sûr, retrouveront beaucoup plus longuement dans vos émissions. On va écouter la première, alors vous nous la commenterez, mais oui. On va laisser déjà le son.
Oui. Voilà, la première
dans
qui
nos oreilles
en douceur. Alors, imaginez, je fais ma prise de son, là, dans un champ. Le bruit de fond que l'on entend, c'est le torrent et le vent.
Il y a un oiseau là, oui,
derrière, tout voilà. Et donc, l'émission HMI, ça consiste à dire, bon, je vais pas laisser le son comme ça pendant 3 minutes. Et je vais dire, bon, auditeur, auditrice, vous voici... au milieu du champ, balayé par la caresse du vent, et la sibilance de ce criquet sauterelle, je n'en sais rien, soyez à l'écoute.
C'est très zen, comme l'on dit maintenant, c'est très tendance, non ?
Je n'ai pas cherché à être tendance, je me suis aperçu au fil des ans que ce qui paraissait totalement obsolète à l'époque où les premiers DJ arrivaient sur les radios, qu'aujourd'hui, ça l'est moins, parce que se pose quand même aujourd'hui la question environnementale. Et je crois que l'émission, sans le vouloir, j'ai vraiment rien prémédité, s'intègre totalement dans cette recherche de lien avec la nature que l'on a coupée.
Donc là, vous invitez finalement l'auditeur à un voyage sonore. Hein. On est chez soi, on ferme les yeux, on écoute, on imagine aussi, hein, c'est pas interdit. Ça veut dire que pour faire ce genre de reportage, si je dis que vous êtes un chasseur de sons, ça vous choque ou vous le voyez autrement ? Vous le définiriez autrement ?
Pas exactement. Les chasseurs de sons, je conseille aux auditeurs d'aller voir les sites de Marc Namblar, qui est un audio naturaliste, donc vraiment très spécifique sur les sons, sans commentaires, très beau, très pur. La création sonore, les créations sonores de quelqu'un comme Benoît Bory, qui est vraiment excellentissime. Moi, je me définis comme un... Un nomade de la montagne, quoi. Voilà, un nomade, c'est en fait... parce que dans l'émission, nous faisons de la radio, donc on s'adresse à quelqu'un. Donc à un moment donné, il ne faut pas parler trop, là, comme je le fais à l'heure actuelle. Il faut laisser le temps à l'auditeur de s'imprégner du son. Et il faut quand même avoir raconté une histoire pour essayer de le tenir en haleine.
On écoute l'autre morceau.
Ouais, voilà.
Où est-ce qu'on est là, Patrick ?
Là, on est dans une forêt en Ariège, dans le massif de la Devèze. Et contre toute attente, nous ne sommes pas au printemps.
On entend un torrent.
Non, c'est le vent.
C'est le vent dans la forêt.
Dans la hêtraie. Les oiseaux aigus, c'est... Il y a des mésanges, alors le reste, je ne sais pas. Je ne suis pas ornithologue. En fait, Ashmil, c'est une vision généraliste de la montagne.
Alors pourquoi Ashmil, d'ailleurs
Parce que H comme horizon, 1000 comme 1000 mètres. Je me suis rendu compte qu'à partir de 1000 mètres, les villes, les villages, les derniers hameaux disparaissent. C'est comme une barrière naturelle. Et là, on peut dire que la nature, entre guillemets, intacte, enfin, elle est là. C'est-à-dire la montagne, la nature qui n'a pas encore été trop touchée par l'homme. Je dis presque intacte parce que quand même, elle est touchée par l'homme. Mais c'est très curieux à voir. D'ailleurs, je le conseille pour les gens qui font de la montagne la nuit. La nuit, on voit les lumières comme ça, puis à un moment donné, on voit comme un halo noir. C'est là où les hommes n'ont pas pu encore trop abîmer la nature.
Vous partez avec le sac à dos, mais pas que. J'imagine que pour avoir une qualité de son de cette nature, il faut un sacré matériel.
Et voilà. Il est là.
Il faut être. Vous n'avez pas de Sherpa, vous partez tout seul ou à la limite avec votre épouse, mais on ne peut pas la transformer en Sherpa non plus. Donc,
Je voulais aussi donner à la radio, si je puis me permettre, ces lettres de noblesse. Car aujourd'hui, je pense qu'avec les technologies actuelles, beaucoup de personnes peuvent faire de la radio et c'est tant mieux. Mais moi, j'ai quand même un amour du son et j'ai un grand respect pour la montagne. Donc, je me sentais redevable, en quelque sorte, de restituer de la manière la plus naturelle, la plus esthétique, la beauté de la nature. Et on ne peut pas le faire avec un micro bon marché. C'est, pour moi, ça serait presque, comment dire... violer la beauté de la montagne, si vous voulez. Et donc,
il faut de la pureté, de l'authenticité, il faut véritablement ramener un son parfait.
Parfait. Donc, pour cela, il faut acheter des micros professionnels qui sont hors catégorie de prix. Et donc, c'est pour ça que je suis resté, encore une fois, longtemps éducateur, avant de choisir de basculer dans la radio.
Oui, parce qu'il fallait des investissements importants. Ouais. Parce que là, vous transportez le studio avec vous.
À peu près,
oui. Oui, donc on sait ce qu'il en est, même si aujourd'hui, en faisant de la radio web, on a quand même un matériel beaucoup plus réduit que ce qu'on a connu autrefois, mais tout de même.
Oui, tout de même.
Il faut que la qualité puisse être là, et la qualité... Alors vous partez, vous avez un micro, vous avez un enregistreur, vous avez...
Alors, j'ai un enregistreur, un préampli lorsqu'il faut ajouter du gain, parce que parfois, lorsqu'on va prendre un son d'un oiseau...
Oui, parce que c'est quand même un peu comme l'image, le son. L'image, on sait qu'on peut la pervertir un peu, c'est-à-dire qu'on peut montrer un peu ce qu'on veut. Mais là, vous nous donnez aussi peut-être à entendre un peu ce que vous voulez. Ça veut dire que ce n'est pas la nature pure et dure, c'est le son que vous voulez bien nous faire écouter.
Non, justement, Jacques.
Non, il n'y a pas de subjectivité.
Voilà, c'est ça qui est... C'est très intéressant, ce que vous me dites.
Je vous remercie.
Parce qu'en fait, l'auditeur peut penser que je travaille sur plusieurs pistes. Par exemple, je prends une source d'eau, je rajoute un oiseau, et puis je vais rajouter ma voix par-dessus.
Vous vous souvenez, j'évoquais tout à l'heure, et pardon de vous interrompre, le film de Jean-Yann, Tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, qui commence par des reportages de journalistes internationaux qui sont soi-disant sur des théâtres de guerre, alors qu'ils sont au bord de la piscine, et qui mixent que des sons sur lesquels ils vont mettre leur voix, on entend des gens qui se tirent dessus, qui crient, enfin, en réalité, tout va très bien.
Alors moi, je peux vous garantir que les prises de son que je fais, elles sont réelles.
Donc on est dans l'authenticité absolue.
Ben, c'est le but. C'est le but, on ne va pas tricher avec la montagne.
Voilà. On continue, on va mettre en fond un autre morceau tout en continuant à deviser.
Ouais, ce son est très authentique là, voilà.
Voilà. Alors là, on est à 2000 mètres, on a les raquettes.
Alors là, non, on est sur un névé, 2600 mètres d'altitude. Je glisse. Le grain de neige. Un chocard en altitude. En même temps que je marche, le micro arrive à capter tout ça.
Il faut quand même des micros d'une sacrée sensibilité, parce qu'on entend le grain de neige là qui crisse.
C'est toute une gymnastique.
Alors ces sons que vous allez ramener, puisque vous allez en randonnée, vous allez enregistrer des heures peut-être.
Non, pas forcément. En fait, avant d'être preneur de son ou chasseur de son, je suis montagnard. Donc à un moment donné, mais comme quelqu'un qui connaît sa région, les beaux quartiers d'une ville, moi je sais qu'à telle époque, dans tel lieu, je risque d'avoir tel son. Chaque année, j'ai rendez-vous avec le même coucou. Enfin, c'est peut-être pas le même, mais en tous les cas, le coucou transmet aux générations futures le lieu où il sera, à la date précise. Chaque année, je vais enregistrer le rossignol Philomène, celui qui chante toute la nuit. Et il est pareil, au même endroit. Donc, il y a comme ça ce qu'on peut appeler, résumer, des spots. Et souvent, en regardant une carte hygiène, je me dis « Ah, là, ça peut être intéressant parce que là, il va y avoir tel son, là, il va y avoir une source, là, il risque d'y avoir un névé, là, il risque d'y avoir des falaises. Ah, s'il y a des falaises, il y aura peut-être des chocards. Ah, il y aura peut-être un aigle, etc., etc. » Donc c'est à partir de ça que je constitue mes randonnées. Et lorsque j'arrive sur le terrain, je prends mon sac à dos, mon micro, mon enregistreur, je marche et tout est improvisé. C'est-à-dire les commentaires que je fais in situ, c'est « ben voilà, je suis à 2000 mètres dans tel lieu, écoutez le son de la cascade, le vent qui bruit, c'est… » Voilà, tout est improvisé.
Vous me dites, me rappelle une conversation que j'ai eue il n'y a pas si longtemps avec un photographe professionnel, un grand photographe qui avait son studio à Toulouse, qui est à la retraite, et qui me disait l'importance de l'heure, l'importance bien sûr de la lumière, mais l'importance de la saison, l'importance du positionnement, un peu ce que vous allez nous dire, mais pour la photo. Donc c'est un éternel renouvellement finalement, mais il y a des saisons aussi, et donc des rendez-vous.
Tout à fait. Tout à fait. Il y a des saisons. J'aime à dire que l'émission, c'est un peu photographe du son, quoi.
C'est dur physiquement parce qu'il faut dur. À la fois marcher, ouais. Grimper, monter, traîner ce matériel, mais aussi j'imagine que vous avez le casque et que vous entendez ce que vous êtes en train d'enregistrer.
Tout à fait. Mais en fait, grâce à ces micros... je me suis aperçu que j'étais à moitié sourd avant de les avoir. Le fait d'avoir ces micros qui m'accompagnent, lorsque je ne les ai pas, je suis beaucoup plus réceptif au son. Comme ça, par exemple.
Où est-ce qu'on est là ? Qu'est-ce qu'on entend, Patrick ?
C'est tout simplement des mini-gouttelettes d'eau qui s'écoulent le long d'un rocher. Avec toujours pareil, le bruit de fond de la vallée et des oiseaux très 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 loin derrière.
Bon, j'espère que nous aurons mis nos auditeurs un peu en éveil et certainement désireux de vous écouter. Les enregistrements que nous allons passer, donc qui ont été faits sur le terrain, il y en a un certain nombre, nous allons les passer pendant plusieurs semaines, vous allez nous accompagner, et nous avec, ça va durer combien de temps durent vos...
Chaque émission ont une durée de 30 minutes.
Et donc 30 minutes pour s'immerger dans la montagne, et pour fermer peut-être les yeux et voilà, avec un peu d'imagination, peut-être que des gens qui n'ont pas possibilité, pour X raisons, de se déplacer, vont là trouver une fenêtre extrêmement sympathique.
Tout à fait, c'est vraiment le but. Je crois qu'aujourd'hui, on est quand même envahi de mauvaises nouvelles. Surtout, on n'a peut-être pas besoin, enfin si on a toujours besoin, mais rappeler toujours que la nature est en danger, que le climat est déréglé, qu'on va droit au mur. Je crois qu'une bonne partie de la population est au courant. Moi, je pense que c'est aussi intéressant de faire percevoir aux personnes la beauté de la nature afin de la respecter. Peut-être que nos chefs d'État, sans vouloir être prétentieux, devraient écouter plus souvent la nature.
Je ne vais pas balancer sur ce terrain. Ça m'amènerait trop loin. D'accord. Et je ne suis pas politiquement correct là-dessus. Oui. Mais donc l'évasion par les oreilles est peut-être aussi un peu l'apprentissage de l'écoute.
Apprentissage de l'écoute, oui, tout à fait. Apprentissage de l'écoute, essayer de créer une certaine émotion, une certaine envie d'aller par vous-même écouter la nature sans forcément avoir des micros, parce que je considère que les meilleurs microphones, ce sont nos oreilles
et notre attention. Je vous propose une pause musicale. Alors, je l'ai reçue la semaine dernière. Ce fut une très belle rencontre. Donc, vous pourrez retrouver le podcast sur le site d'Esprit Occitanie. Je vous propose d'écouter Marcel Amont et puis ça va nous réchauffer un peu. Son Mexicain basané est là pour ça.
Vamos a cantar la canción del mexicano. Con el sombrero. Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. Anguise, 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 anguise de parasol. Il n'est pas loin de midi d'après le soleil. C'est formidable aujourd'hui ce que j'y sommeille. L'existence est un problème, on n'en plus finir. Chaque jour, chaque nuit, c'est le même. Il vaut mieux dormir. Rien que trouver à manger, ce n'est pourtant là qu'un détail. Mais ça suffirait à pousser un homme au travail. Aïe, 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 aïe. J'ai une soif du tonnerre, il faudrait trouver un gars pour jouer un verre en trois coups de dés. Je ne vois que des fauchés tout autour de moi. Et d'ailleurs, ils ont l'air de tricher aussi bien que moi. Pourtant j'ai le gosier comme du buvard, ça m'arrangerait bougrement s'il pouvait pleuvoir. Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. Anguise, 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 anguise de parasol. Oui, 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 oui. Voici venir Cristobal, mon Dieu qu'il est fier. C'est vrai qu'il n'est général que depuis hier. Quand il aura terminé sa révolution, nous pourrons continuer tous les deux la conversation. Il est mon meilleur ami, j'ai parié sur lui 10 pesos. Et s'il est battu, je n'ai plus qu'à leur dire adios. On voit partout des soldats courant dans les rues. Si vous ne vous garez pas, ils vous marchent dessus. Aïe! Et le matin, quel boucan, sacré nom de nom, ce qu'ils sont agaçants, énervants, avec leurs canons. Ça devrait être interdit, un chahut pareil à midi, quand il y a des gens sapristi qui ont en sommeil. Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. Anguise, anguise. Anguise, 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 quel sombrero. Anguise, 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 allez coucher. Anguise, 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 anguise.
Voilà, Marcel Amont toujours en forme, comme vous avez pu le constater la semaine dernière, et merci à FR3 qui était venu filmer l'émission et qui apparemment l'a apprécié. Ah, nous retrouvons mon invité, Patrick Avakian, mon camarade de radio, qui vient de nous expliquer le concept de son émission, vous allez entendre très bientôt, H1000. Et on a bien perçu, Patrick, de toutes ces explications que vous avez données, que vous êtes quand même un artiste, vous avez une sensibilité d'artiste.
Ah, je sais pas.
Oui. C'est pour ça que je vous avais posé la question. Est-ce qu'il y a une œuvre d'art particulière qui a retenu votre attention? Alors, est-ce que la nature est en elle-même la seule œuvre d'art qui vous satisfasse, ou alors la main de l'homme aussi, peut-être?
Oui, la main de l'homme, effectivement, me satisfait, mais c'est vrai que je suis plus attiré par la nature. Moi, de toute façon, toute l'inspiration, enfin, une bonne partie de l'inspiration artistique des hommes provient de la nature.
Ah ben oui, si on regarde par exemple la Sagrada Familia que je connais bien et Gaudi, il s'est inspiré dans son architecture des modèles que lui offrait la nature.
Les impressionnistes, Van Gogh, etc. Et j'en passe. Je pense que Victor Hugo disait de Gavarnie l'amphithéâtre de la nature. Voilà. Allez voir l'amphithéâtre, les amphithéâtres de la nature pour percevoir l'art. Et en fait, je pense qu'on fait le chemin inverse. Enfin, moi, personnellement, j'ai plus été attiré par la nature. Et maintenant, j'écoute, je regarde des films, des œuvres d'art, effectivement, qui m'émeuvent.
Est-ce qu'il y a un moment particulier dans votre vie qui a été pour vous quelque chose de marquant, qui a peut-être vous a orienté vers une autre direction?
En fait, c'est à partir de là, je crois que le déclic... Je suis parti en expédition dans l'Himalaya en 2000, donc j'ai fait un sommet à plus de 6400 mètres d'altitude. Donc en fait, c'est vraiment...
Bref, là, il faut quand même être aguerri, parce que bon, jusqu'à 2000, ça va, mais au-delà, c'est plus pareil, c'est du professionnalisme.
Faut être aguerri, encore une fois.
En trimballant le matériel.
Là, je n'avais pas le bon matériel, c'est fort dommage, mais j'avais du matériel quand même. J'avais un petit MD, micro, stéréo, basique. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que nous avions, encore une fois, même si on est passionné de montagne et qu'on se dit très respectueux et de la nature et des gens, que j'avais une attitude totalement occidentale dans ce pays très beau, pays magnifique qu'est le Népal. Pourquoi? Parce que lorsque je suis redescendu de mon ascension, un Sherpa qui m'appréciait, parce qu'il pensait que je parlais aux esprits lorsque j'enregistrais les quelques sons de montagne. Alors, vous voyez déjà...
C'est peut-être pas si faux que ça.
Non. Et sa réflexion, ça a été vraiment ce qu'on appellerait dans le jargon un scud. Il me dit, Patrick, ta vie doit être bien triste en France pour que tu la risques sur mes sommets sacrés. Voilà.
Tout est dit.
Et c'est à partir de là que j'ai redoublé d'intensité, d'une part pour passer mon diplôme d'accompagnateur montagne, qui aujourd'hui ne me sert pas à grand-chose, si ce n'est qu'à accompagner en bénévole beaucoup de personnes en montagne, et surtout, me dire, donne-toi les moyens de restituer la beauté des Pyrénées, parce que les Pyrénées sont pour moi les montagnes du monde pour tout le monde.
Une personne qui vous a inspiré, qui a été pour vous un modèle, qui s'est révélé important dans votre vie.
On en parlait tout à l'heure, c'est mon épouse, mais au-delà de l'idée de l'épouse, c'est d'ailleurs que pour moi, la montagne est une entité féminine. Mais je dirais que là, vous allez dire que je suis poète, mais la nature est incomplète sans la beauté des femmes.
Oui, il finit très fort, il est très habillé, il est très fort. Toujours la dernière séquence dans mes émissions, mais on parle de livres. Hein. Vous savez que c'est une dilection particulière. Il y a un livre qui est sur votre table de chevet?
Il y en a plusieurs. Alors, j'ai lu récemment le bouquin de Musso. Alors, je ne sais plus le prénom. C'est
Guillaume.
Guillaume Musso, La vie secrète des écrivains, un genre de thriller, etc. En termes de livres, je m'interroge plus. Il y a un livre que j'aimerais acheter, là, c'est le dernier, je crois que c'est Stepanov, L'animal et la mort. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, en allant en montagne, n'y a pas d'internet, il n'y a rien à faire.
Il y a tout à faire, justement.
Justement, on observe. Et j'observais les animaux. Alors, les animaux, c'est les animaux domestiques, enfin, des pâturages, mais aussi parfois des renards, des sangliers. Et là, je me questionne. Ou lorsqu'on croise le regard d'un chevreuil ou d'un cerf, comme il peut m'arriver, assez rarement, mais assez souvent, finalement, on se demande sur le moment, mais est-ce que l'animal y pense? Est-ce qu'il a une sensibilité? Donc, toutes ces questions, ça vous heurte un peu. Et donc, j'ai lu un bouquin. Faut-il manger des animaux? Et ce n'est pas parce que c'est à la mode aujourd'hui. Je dis que je suis un végétarien contrarié. J'ai réduit ma consommation de viande à 90%. Voilà.
Oui, c'est une démarche que j'ai faite aussi. Peut-être pas à 90%, mais considérablement réduite. On pourrait aussi parler de Sylvain Tesson. Vous me l'avez cité en préparant l'émission, sa Panthère des neiges, qui n'est qu'observation et observation de la nature et de ce qu'il voit, mais aussi observation et remarque sur notre vie d'occidentaux.
En fait, ce qui est important chez Sylvain Tesson, c'est qu'il est passé quand même du voyage grand large à quelque chose de plus intime. Dans le précédent ouvrage, je crois que c'est les sentiers noirs ou un truc comme ça. En fait, il traverse la France à pied.
Oui.
Et en fait, il nous soumet cette idée. Pas besoin de prendre un avion, aller à 2-3 000 kilomètres de chez vous pour être dépaysé le temps d'une semaine ou le temps d'un week-end, surtout avec tout l'enjeu écologique qu'il y a derrière cela. Et donc, c'est en cela aussi que la montagne m'a appris à voyager. Vous partez là aujourd'hui en pleine montagne, c'est fantasia, vous croyez un peu en Antarctique, quoi, hein, moins 5, moins 8, moins 10 cette nuit, chute de neige, vous avez intérêt d'être prêt.
Je le crois sans peine. Alors moi, je vais vous parler de notre livre, un livre de journaliste, parce qu'il y en a certains qui sont, malheureusement, ils sont de plus en plus rares, mais il en est, qui sont l'honneur de la profession et qui prennent encore le temps de mener des enquêtes de longue haleine, de le faire avec professionnalisme, avec talent. Alors c'est le cas ce sont deux divins hein, du journalisme, mais il y en a d'autres bien évidemment, mais de Gérard Davé et de Fabrice Lhomme, qui viennent de sortir chez Fayard un livre intitulé « Le traître et le néant ». Alors c'est un livre renseigné, factuel, bien construit, qui se lit d'une seule traite, en tout cas ça a été mon cas, quasiment comme un polar d'ailleurs, hein. C'est un assez gros livre, mais c'est tellement vif, tellement vivant, tellement en prise sur notre actualité de tous les jours que l'on ne s'ennuie pas un seul instant. Alors si vous voulez savoir de quoi Macron est le nom, si vous voulez nourrir votre réflexion en vue des prochaines élections présidentielles, n'hésitez pas, lisez Le Traître et le Néant, vous n'allez vraiment pas être déçus. Et puis une annonce avant de nous quitter, Patrick. Dimanche 28 novembre, de 10h30 à 15h, à peu près, 11 rue Malcousina, c'est-à-dire à l'Hostal d'Occitanie, il y aura un salon du livre. Venez chercher votre perle à l'Hostal d'Occitanie. Alors je dis perle parce qu'il y aura quelques huîtres, un verre de blanc, des fritons de canard avec du rouge, enfin, les fritons venant du Lot, les huîtres venant d'ailleurs. Bien évidemment, nous ne faisons pas encore, nous ne produisons pas d'huîtres dans le Lot. Nous vous attendons, ce sera une dizaine de polardeux, comme l'on dit, d'excellents collègues qui écrivent bien, qui sont créatifs, imaginatifs. Super. Dimanche 28 novembre à 10h30, rue Malcousina, à côté de la place Esquirol, à l'Hostal d'Occitanie. C'était un plaisir, Patrick Avakian, de vous avoir suivi, de vous avoir emboté le pas dans votre montagne que vous aimez tant. Nous vous retrouverons, je l'ai dit, pour la première émission. Je reviens, je l'ai noté, voilà, c'était le vendredi 3 à 19h, et puis après, bien sûr, le podcast, comme d'habitude. Vous verrez, vous allez rêver, vous allez être dépaysé, et puis c'est très poétique tout ce que vous faites.
Eh bien, merci en tous les cas de m'avoir invité, puis je souhaite un bon voyage sonore à travers H1000 aux auditeurs et aux auditrices.
Merci, puis je ne vous ai pas vraiment invité, maintenant vous êtes ici chez vous, c'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne, avec à la technique Tiffaine Lemel.
Merci.
Vous retrouverez le podcast de cette émission en attendant de retrouver ceux de Patrick Avakian sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous.